Se rencontrer, se parler, appel sur l'actualité est à Conakry. Juan Gomez.
De retour à Conakry, au Centre culturel franco-guinéen. Vous l'entendez, beaucoup de monde pour participer à cette émission que nous consacrons ce matin aux événements tragiques du 28 septembre 2009, il y a 9 ans, jour pour jour. Des militaires ont tué au moins 157 personnes et violé une centaine de femmes dans le stade de Conakry où étaient rassemblés des militants de l'opposition. Voilà maintenant 9 ans que les victimes et leurs familles réclament justice. Alors à quand un procès? Quelles répercussions ces crimes ont-ils eu dans le pays? Les séquelles sont-elles encore perceptibles? On en parle avec mes invités. Khalifa Gassama Diaby, ministre de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté. Asmaou Diallo, présidente de l'Association des Victimes, Parents et Amis du 28 septembre. Et Florent Gel, responsable du Bureau Afrique de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Messieurs, madame, si vous le permettez, on va tout de suite donner la parole au public. Il y a beaucoup de monde qui souhaite prendre le micro de RFI. C'est le cas d'Alimou. Bonjour.
Bonjour Juan. Bonjour à vos nombreux auditeurs à travers le monde.
Merci pour eux. Nous les saluons au passage. On vous écoute.
Merci. Monsieur Juan, ce procès doit se tenir absolument. Il doit renvoyer un signal fort, un signe d'espoir pour la fin de l'impunité dans notre pays. Notre pays, malheureusement, a baigné dans une culture de violence d'État exercée par l'État et ses services. Je peux faire un petit rappel. La révolution est reconnue par le Kambouarou. Du temps de Conté...
S'il vous plaît. Merci.
Du temps de Conté, il y a eu les événements de février 2007 et les événements de 5 juillet. Il y a eu le massacre pendant la transition. Et jusqu'à maintenant, le ministre vient de le dire, les gens sont en train de mourir pour le fait de revendiquer, simple fait de manifester. Je pense que ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que cette violence qui s'exerce, parfois les bourreaux deviennent les victimes et les victimes deviennent les bourreaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu une justice réelle. Les Guinéens refusent d'ouvrir les pages douloureuses de leur histoire pour qu'ils apprennent, pour que ça jette les bases d'une véritable réconciliation dans notre pays.
C'est intéressant ce que vous dites, Alimou. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de la Guinée un militaire ou des militaires ou des responsables de crimes poursuivis par la justice et aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire avec un jugement, condamnation ou pas, mais qu'il y ait un procès. Il n'y a jamais eu de procès.
Non, je crois qu'il y a eu, dans le cas de la torture, il y a eu un procès, je ne sais pas où est-ce que c'est. Mais ce qu'il a dit est tout à fait vrai et nous ne cessons de le rappeler. Mais ce qui est important sur ces choses-là, c'est d'essayer d'avoir une lecture dépassionnée. Je suis convaincu d'une chose. Nos compatriotes de Mandiana qui ont subi des violences injustes, il n'est pas concevable que des citoyens qui payent par leur argent, l'argent public, c'est l'argent des Guinéens, qui payent des services de sécurité pour les protéger, et quand ils se lèvent pour manifester, quel que soit le bord, et que ces services de sécurité s'autorisent le droit de leur ôter la vie. Ça, c'est pas une question de politique. C'est une question de dignité nationale. Effectivement, il n'y a jamais eu dans notre pays de procès pédagogique, de procès qui symboliquement mettent fin à cette culture de l'impunité. Il est réel. Alors, aujourd'hui, moi j'appartiens au gouvernement du président de la République, aujourd'hui, je suis ministre. Mais je lui dois cette honnêteté et à ce peuple que je respecte. C'est le mien. Mais je dis ceci, je dis une chose. On peut penser aujourd'hui que parce que on est penché du côté du pouvoir de justifier certaines choses, demain on n'y sera pas, on subira ce qui a été fait aujourd'hui comme complaisance. Il faut faire attention et je partage sa lecture. L'impunité est vraiment un cancer pour notre pays et il faut que cela prenne fin.
Florent Gel, ce procès, ce sera l'occasion d'envoyer un signal fort, comme le disait l'auditeur à l'instant.
Oui, je pense que l'impunité, c'est un système qui fonctionne sur... C'est comme un verrou. Ça fonctionne sur le silence, ça fonctionne sur des mécanismes, etc. Et qu'un tel procès aussi symbolique et pédagogique, comme l'évoquait le ministre Diaby, est fondamental pour faire sauter ce verrou. Quand je suis arrivé pour enquêter sur le massacre du 28 septembre et proposer aux victimes d'aller en justice, ils nous disaient tous, mais vous êtes fou. Ici, il n'y a jamais eu justice. Vous n'allez jamais y arriver. On est 9 ans après, c'est long, mais il y a une instruction qui finit. Il y a 15 personnes des plus hautes responsabilités de l'État qui sont, de l'époque, qui sont inculpées. Il y a
15 personnes civiles et militaires.
Civiles et militaires, absolument. Qui sont inculpées. Donc, les choses ont avancé. Par contre, il est évident qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est le pas presque le plus dur, mais c'est le pas aussi qui va libérer et qui va contribuer aussi à la justice du quotidien, parce que la justice, c'est pas que des cas extrêmement symboliques, mais si vous dites aux gens, et on le voit ici, et vos auditeurs, et vous tous, vous le savez, si on juge pas les plus hautes autorités qui sont rendues coupables d'un crime, pourquoi juger le simple citoyen ? Ouais. C'est pas deux poids, deux mesures.
Souleymane, bonjour.
Bonjour Juan, et bonjour aux milliers d'auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
En fait, ce que nous constatons en Guinée aujourd'hui, c'est que la vie du Guinéen n'a aucune valeur. Pendant longtemps, tuer un Guinéen parce qu'il revendique est normal. Et quand j'écoute tous les intervenants, c'est comme si aujourd'hui, rien ne pourra changer. C'est ça la vérité.
C'est-à-dire que la violence est devenue finalement une banalité.
Aujourd'hui, vous vous levez, vous contestez, vous revendiquez, on peut vous abattre comme un poulet, ça passe incognito. Alors que faire un procès, tenir un procès, c'est d'abord rétablir une vérité historique, parce qu'on est amnésique dans ce pays. On a la mémoire très courte.
Et vous pensez qu'on a envie, concernant les massacres du 28 septembre, d'effacer ces événements de la mémoire de l'histoire guinéenne ? Il y a une volonté ?
Vous savez, lorsque la justice devient un enjeu politique, plus rien n'avance. Et aujourd'hui, c'est le constat. Je n'ai pas été victime. En 2009, j'étais au stade. Plus en tant que badaud, puisque je ne logeais pas loin du stade. On a tous été victimes. Mais je vous avoue que moi, j'ai fait quasiment abstraction de ce jour dans ma tête, puisque je me dis qu'il n'y aura jamais de justice. C'est ça le problème aujourd'hui.
Monsieur le ministre, je sais que vous avez un droit de réserve, je sais que vous ne pouvez pas vous prononcer sur la procédure judiciaire en tant que telle, et c'est normal. Mais en même temps, il y a une attente très forte. Le procès, les victimes, le peuple guinéen le veut le plus vite possible. Tout à l'heure, en début d'émission, Asmaou Diallo évoquait cette date de 2020, élection présidentielle. Au plus profond de vous-même, pensez-vous qu'il est possible d'organiser, mais il faut tenir compte de mille et une choses pour organiser un tel procès. C'est un procès historique. Donc, il faut trouver un endroit, il faut de l'argent, il faut sécuriser les uns les autres. Est-il possible d'organiser un procès avant 2020 ?
Là, vous ne me faites pas un cadeau. Le procès, il l'a dit. Alors, moi, je ne veux pas prendre un pari. Je crois que ce pays ne peut pas échapper à ce procès. J'en suis convaincu. Alors, il y a deux enjeux. Quand et comment? Parce qu'un mauvais procès serait pire que sans procès. Un procès qui consisterait à s'occuper des lampistes serait encore plus pire, puisqu'on rajouterait de l'injustice à l'injustice. Donc il faut préparer un véritable procès équitable qui permette aux victimes de rentrer dans leurs droits et à ceux qui sont accusés d'avoir la possibilité de se défendre avec les moyens juridiques et d'avoir le procès. Fondamentalement, il y a évidemment un certain nombre de craintes qui peuvent être rationnellement expliquées. Un tel procès a besoin de sérénité. Pour être tenu.
Et le moment est propice ?
Écoutez, nous savons que notre pays, évidemment, a cette maladie aiguë de crise. Vous en sortez dans une, vous en rentrez dans une autre. Alors, est-ce que on peut tenir un tel procès ? Et je vais dire, c'est le procès, et c'est extrêmement important. Il y a un exercice simple auquel j'invite nos concitoyens à s'y prêter. Quand quelqu'un subit une douleur, moi, je viens de perdre un petit frère il y a 3 mois. Quand quelqu'un vous dit en face, j'ai perdu mon fils, ma femme, mon mari, avant de regarder de quel bord il est, posez-vous la question, est-ce que si c'est moi, je l'accepterai ? C'est ça, la démarche humaine. Alors, moi, je souhaite qu'il y ait, bien entendu, le plus rapidement possible, mais je comprends la position du ministre d'État, et on doit lui concéder cette prudence de ne pas annoncer de date, puisque sa parole est une parole qui engage l'État. Ce que je peux dire sur votre question, vous avez vu, je ne l'ai pas répondu, hein.
Oui.
Je suis passé à
vous
côté.
Vous contournez.
Eh ben oui.
Vous
voilà.
Contournez, mais vous êtes ministre. Et juste, je rappelle, pour revenir sur les propos de Cheikh Sakho, par le passé, il s'était engagé, il avait fixé des dates, il avait parlé de 2016, de 2017, nous sommes en septembre 2018, et les victimes attendent encore un procès. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour Juan, et bonjour aux millions d'auditeurs de la RFI, et bonjour également au grand public.
La réconciliation nationale, c'est une priorité pour vous?
Voilà. Là,
Est-ce qu'il faut réconcilier les Guinéens, la population que vous êtes, ou faut-il réconcilier les Guinéens et l'État, les Guinéens et la justice? Qui faut-il réconcilier?
Voilà, là les gens qu'il faut réconcilier, au stade, il y avait tous les bords politiques. Il y avait des Guinéens dans tous les angles. Pour qu'il y ait une véritable réconciliation nationale, il faudrait qu'il y ait la vérité et la justice. Qu'il y ait justice tout d'abord entre les citoyens et l'État. Parce que nous constatons dans de différentes manifestations, des Guinéens sont réprimés par les gouvernants. Il faudrait là qu'il y ait une réconciliation entre non seulement les forces de défense et de sécurité, qui sont la gendarmerie et la police, et également une réconciliation entre le citoyen et les forces de défense et de la sécurité.
Asmaou Diallo, comment vous l'imaginez, cette réconciliation nationale?
Bien, et quand je disais tout à l'heure, avec le procès qui va se tenir pour le 28 septembre, ça peut ramener au niveau des Guinéens un sentiment de réconfort, un sentiment de réconfort qui va pousser tout le monde à être ensemble. Et quand je parle de réconciliation nationale, et il ne faut pas oublier que tous les problèmes, c'est entre l'État et son peuple. Si l'État arrive à mettre la justice à disposition de son peuple, je suis sûr que tout le monde va se remettre ensemble. Et aussi, il y a un fait. Au niveau des partis politiques, c'est là que le bât blesse. Il y a eu une grande déchirure au niveau de la société. Et il faudrait que les Guinéens puissent dépasser ce stade.
Quand vous dites c'est là que le bât blesse, c'est-à-dire que vous regrettez, si je comprends bien, que l'opposition ou que la majorité ne vous soutienne pas davantage, vous victimes. C'est-à-dire que la classe politique, finalement, dit il y a des ONG, il y a des associations. C'est leur job, c'est leur boulot. Ce n'est pas la classe politique de s'en mêler.
À ce niveau, je le dis tout le temps et je le dirai encore, la classe politique n'a jamais soutenu les victimes du 28 septembre. À ma connaissance, quand je parle surtout de mon organisation, au contraire, c'est les institutions qui ont toujours apporté de l'aide aux victimes qui sont avec nous. Oui. Donc,
Florent Gel.
Ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, parce que c'est eux les premières victimes, en fait. Hein. Mmh. UFDG, RPG, Force Vive de la Nation, ils étaient tous au stade du 28 septembre.
Et ce sont leurs militants qui étaient sur place.
Et indépendamment des communautés, des trucs, etc. Tous ceux qui ont voulu faire croire le contraire ont tort. Ce procès, ce n'est pas le procès d'une communauté, ce n'est pas le procès uniquement d'un système, c'est le procès d'individus qui ont usurpé, qui ont pris l'État en otage et qui ont agi au nom de l'État et qui ont tué au nom de l'État. Ils n'ont pas tué au nom des Guinéens, quoi. Et ça, il faut bien comprendre cette dimension-là. La réconciliation nationale, me semble-t-il, bon, d'abord, elle est guinéenne, elle se fera avec la spécificité que le pays et la population et les autorités voudront bien lui donner. Mais ce qu'on voit à travers les autres expériences en Afrique ou ailleurs de réconciliation nationale, c'est qu'effectivement, il faut quand même réconcilier le citoyen et l'État et réhabiliter l'État dans son rôle de protecteur. Et qu'une réconciliation nationale ne marche que quand le citoyen a confiance dans l'État pour se protéger.
Il nous reste vraiment quelques minutes. On va prendre un dernier auditeur. Le temps passe très très vite. Mamadi, bonjour.
Oui, bonjour Juan et à toute l'équipe de RFI présente à Conakry.
Merci, nous vous écoutons.
Ok. Moi, je pense bien que cette affaire du 28 septembre, ce n'est pas une question de date qui doit intéresser les victimes, mais c'est de savoir est-ce que toutes les conditions, c'est-à-dire des questions préjudiciales ou bien des préalables, seront réunies bien avant que nous ayons ce qu'on appelle un procès.
À quoi pensez-vous exactement?
Ce que je veux dire, je ne veux pas que cette affaire soit une affaire politisée. Au-delà de ça, c'est un événement aussi qui est complexe. Donc, nous nous dirons tout simplement à nos bailleurs de fonds et à l'État guinéen de faire en sorte que les moyens financiers soient mis à la disposition de la justice pour que nous ayons une justice équitable et acceptée. Oui.
Khalifa Gassama Diaby, le ministre Cheikh Sakho, ministre de la Justice, disait ce matin, la balle est dans le camp de la communauté internationale. Et Cheikh Sakho le dit depuis de nombreuses années, pour tenir un tel procès, il va falloir beaucoup d'argent. Il va falloir que la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne mettent de l'argent sur la table, comme ces mêmes bailleurs de fonds l'ont fait pour un autre procès historique sur le continent, le procès d'Hissène Habré, qui s'est tenu l'année dernière au Sénégal. Financièrement, on en est où? Vous avez une idée ou est-ce qu'il faut vraiment tant d'argent que ça pour organiser un tel procès?
Non, je n'ai pas d'éléments techniques sur ces questions et ou dire aussi avec bien sûr bienveillance que mon rôle n'est pas de commenter ce que le ministre d'État a dit.
Mais quand on entend dans les médias, il faut de l'argent, la balle est dans le camp de la communauté internationale, on a l'impression qu'il faut des milliards pour organiser un tel procès.
Il y a deux principes dedans. La première chose, c'est que, bien entendu, un tel procès a besoin d'un certain nombre de choses, de logistique, de dispositifs, et cela a besoin, bien sûr, d'être... Et je fais partie de ceux... l'un n'empêche pas l'autre, donc Maître Sakho a tout à fait raison là-dessus, mais moi je fais partie de ceux qui peut-être avec une culture nationaliste qui pensent que lorsque la question nationale est engagée et qu'il y a parfois des efforts à faire dans notre pays, parce que aussi le fait que le budget national soit engagé dans de tels procès est aussi un processus pédagogique. Ça voudrait dire que nous prenons en compte et au sérieux la question qui est posée. On ne peut pas dire, d'un côté, on ne peut pas réclamer notre souveraineté et de l'autre côté, continuer à tendre la main.
Florent Gel, sur l'aspect financier d'un tel procès, la question mérite d'être posée.
Oui, puis elle est posée. Je ne dis pas qu'elle est en partie réglée, mais il y a pas mal de partenaires internationaux qui se sont déjà mobilisés pour contribuer. Mais je suis d'accord avec le ministre Diaby en soutien à la Guinée, qui est le principal d'abord organisateur, et puis qui va y aussi consacrer des moyens humains et financiers. Mais je dirais que de la même façon que ce procès ne doit pas dépendre des élections, ce procès ne doit pas non plus dépendre juste de la question financière. Et là encore, c'est une volonté nationale et politique, il faut bien le dire, qui doit s'exprimer pour tenir ce procès. Et évidemment, il faut le tenir en 2019, ce procès. Sinon, après, effectivement, on rentrera dans des séquences politiques qui rendront les choses compliquées. Mais il faut le faire comme ça.
Asmaou Diallo, le mot de la fin.
Ok, et là je dirais que avec les moyens qui existent déjà pour l'organisation de ce procès, j'espère que la Guinée peut commencer et après il y aura plus certaines des fonds qui vont tomber pour accompagner le processus.
C'est-à-dire que les bailleurs de fonds ne mettront pas de l'argent sur la table tant qu'une date ne sera pas annoncée.
Ils ne verront pas du sérieux, ça j'en suis sûr. Donc ce que je demanderai au gouvernement guinéen, c'est de s'engager. Parce qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils peuvent donner quelques moyens. Je ne dis pas qu'ils vont donner, ils vont financer tout le procès, mais ils peuvent commencer et les partenaires, les bailleurs, ils peuvent venir en aide pour terminer le processus.
Merci infiniment à tous les trois, monsieur le ministre. Merci Asmaou Diallo, Florent Gel. Merci au public d'être venus très nombreux. Lundi, nous serons toujours à Conakry. Nous donnerons la parole exclusivement à la jeunesse à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de la Guinée. Comment les jeunes perçoivent-ils leur pays? Et ici même, sur cette scène à mes côtés, Mouktar Diallo, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. À noter également sur vos tablettes que ce dimanche, la Marche du Monde, présentée par Valérie Nivelon, reviendra sur la construction du mythe Sékou Touré, celui qui a dit non à De Gaulle. Merci à tous de votre fidélité. Avant de nous quitter, un grand merci à toute l'équipe qui m'aide à présenter cette émission et vous pouvez évidemment les applaudir. Jessica Taïeb, Boris Vichit, Marc Fichet, Fouque Foller. Merci également à nos correspondants Mouktar Ba, Carole Valade et merci infiniment aux équipes du Centre culturel franco-guinéen de nous avoir accueillis. À suivre, Priorité Santé, Caroline Paré. À bientôt, Conakry.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.